Formation de théologie naturelle par le père Marie-Dominique Philippe Arimont, le 27 mai 1995. 9e conférence. 10e conférence.
Plusieurs questions qui ont été posées. Pourquoi ce qui est en puissance est divisible? Parce qu'il n'est pas en acte. Ce qui est en acte est indivisible, est un. Parce que ce qui est un, c'est ce qui est indivisible. Alors, le divisible, voyez, c'est justement ce qui, par définition, est ordonné à un autre, à la mesure qu'il actue et qu'il divise. L'expérience très simple que nous avons. Ce qui est en puissance n'est jamais intelligible par soi. Donc, il est intelligible par un autre. S'il est intelligible par l'autre, l'autre l'actue. L'actue, ou totalement, ou en partie. Mais il est toujours divisible, puisqu'il est relatif à un autre. Vous voyez, la dualité, il est deux. S'il est deux, il n'est pas simple. Ça irait très loin, ça serait très intéressant à creuser. Seul, ce qui est premier est simple. Ça vous aidera peut-être à comprendre ça. Seul qui est premier est simple. C'est l'apanage du premier d'être simple. Il est. Dès vous êtes, il suffit de mettre en procession. Quoi. Vous êtes second. Vous êtes derrière un autre. Vous êtes relatif à lui. Puisque vous êtes second. Vous êtes et vous êtes relatif à lui. Donc vous êtes deux. Et ces deux expriment deux aspects différents. Qui sont divisibles. On peut vous séparer de l'autre et vous rester. Tandis que lorsqu'on est premier, on ne peut pas vous diviser. Vous êtes unique. Alors, quand on prend les exemples dans l'ordre de la quantité, si tu restes là, on comprend le mieux. Une quantité, une réalité quantitative, une tarte, elle est divisible. Ne mettez pas en doute ça. Pourquoi ? À cause de sa quantité. Vous la divisez en parties diverses. Et chaque fois que vous la divisez, vous l'actuez. Mais tout ce qui n'est pas actué reste divisible. Donc on peut la diviser en cinq parties, arrive un autre. On doit donc diviser en six, les parties seront plus petites. Et tout le monde pleure, parce que de fait, il y en aura moins. Et ainsi de suite. Dans les héritages, ça se voit très bien. Et ça, c'est divisible. Je crois que tout ça tient du fait que ce qui est en puissance est relatif à l'acte. Ce qui est relatif à un autre est double. S'il est double, il est divisible, puisque le double n'est pas le premier. Alors, faites ça plusieurs fois et puis vous arrivez à piller. Deuxième point. On disait, le passage du tiesti au pos. C'est vrai que c'est pas commode. C'est la grande découverte d'Aristote, ça. Face à Platon. Tiesti, qu'est-ce? La grande grande question qu'est-ce ? Où je découvre la réalité dans ce qu'elle a de premier. Donc, d'indivisible, vous comprenez ? De premier. Le principe, c'est ce qui est premier. Tout simplement. Le principe, qu'est-ce que c'est qu'un principe ? Il est premier. Partout, vous êtes premier, vous êtes principe. Alors cherchez où vous êtes premier, et là vous serez principe. Partout, vous êtes second, vous êtes relatif. Vous êtes dépendant. Il y a des personnes qui n'acceptent jamais d'être second. Et alors, quand ça prend une dimension très grande, on dit, ah, c'est l'orgueil. L'orgueilleux ne tolère pas d'être derrière un autre. C'est ça l'orgueil. Donc ne tolère pas que l'amour puisse passer devant. C'est ça le péché d'orgueil. Vous voyez, pour Lucifer, il n'a pas accepté que la femme passe devant. C'est pour ça qu'il l'a haï. C'est une chose, c'est une autre clé, si vous voulez. Le premier est simple. Qu'est-ce que je veux saisir ce qui est premier dans l'ordre de la détermination, donc dans l'ordre de la forme. Tandis que pose, c'est le comment. Comment ce premier existe-t-il ? Le comment, c'est de l'ordre de l'exister. C'est la manière d'exister, c'est plus juste de dire ça. La manière d'exister. Comment existez-vous ? Le principe est au-dessus de tout, les premiers. Donc il peut être premier dans l'ordre de l'exister, mais il est premier. Et le premier, d'une certaine manière, n'a pas de manière d'être, si ce n'est que d'être premier. Chacun d'entre nous, dans un domaine particulier, on est premier. Très bien, du point de vue psychologique et au point de vue pédagogique, c'est capital de toujours équilibrer. Vous êtes très faible dans un domaine, très en puissance, donc vous êtes très, très dernier en orthographe et premier en mathématiques. Ça compense. Besoin dans un domaine donné d'être premier. Ça stabilise. Et chacun d'entre nous, si on fait un petit examen de conscience un peu lumineux en face de Dieu, dans tel domaine, ça va. Non, je suis dépendant. Et c'est toujours l'autre qui est devant. Alors vous êtes devant ça, ça vous agace. C'est ce qui fait comprendre la difficulté de supporter des grosses communautés, parce qu'il y en a beaucoup de vent. Tandis qu'il n'y a qu'un vent, ça va encore, parce qu'en tournant, je peux le rattraper. Et on le rattrape toujours au tournant. On a une petite stratégie, chacun d'entre nous, pour le rattraper au tournant. Tandis que quand il y en a 50 de vent, c'est lourd à porter. Vous voyez, on est très sensible au commun. Alors c'est lourd. Si on n'était pas sensible au commun, ça n'a pas d'importance. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à la multitude. C'est lourd. Vous voyez, alors, le comment, le principe, c'est l'intelligibilité et l'être. Le comment implique toujours le devenir, en quelque sorte. Sauf quand il s'agit de Dieu, où le comment est simple. Ça, c'est unique à l'être premier, à Dieu. C'est le signe même de la divinité et de Dieu. Ça, on essaiera de le voir si on a le temps demain. Ça fait partie de la contemplation philosophique de Dieu. Dieu est absolument simple. Mais c'est la première question de saint Thomas sur Dieu. Et c'est Et ça reste vraiment la première question. Et c'est là où vous voyez que l'ordre de la sagesse acquise n'est pas l'ordre de la révélation. Selon la révélation, le premier attribut de Dieu, le premier manifeste, c'est la toute-puissance. Et au plan philosophique, c'est la simplicité. C'est très curieux. Mais je ne veux pas m'attarder là-dessus. Alors, il y avait une dernière question.
La finalité métaphorique, qu'est-ce que ça veut dire?
La finalité métaphorique. La finalité métaphorique, c'est justement de comprendre. Vous allez comprendre tout de suite. L'amour, c'est premièrement l'union affective. J'aime quelqu'un, je t'aime. On a tous cette expérience de l'union affective, je t'aime. Nous ne faisons qu'un au plus intime de notre cœur. Et puis, il y a l'union effective. C'est la présence. Vous voyez, l'union affective, c'est le tiesti. L'union affective, c'est le pouce. Enfin, je te retrouve. Ça n'a rien changé dans mon cœur, mais je te retrouve. Je suis heureux. Je suis dans la joie. Union affective. Bon. Comment se fait le passage de l'union affective à l'union affective? L'union affective, causalité finale. L'union affective, causalité efficiente. Pour rejoindre mon ami, il a fallu prendre l'avion. Pour rejoindre mon ami, il a fallu prendre le TGV. Pour rejoindre mon ami, il a fallu prendre l'auto. Pour rejoindre mon ami, il a fallu marcher. Causalité efficiente. L'avion, l'auto, c'est des causalités efficientes différentes. Elles sont finalisées. Quand vous allez prendre un billet au chemin de fer, vous dites, je viens prendre un billet au chemin de fer. Pour où? Je ne sais pas. L'efficience pour l'efficience n'est pas déterminée. Vous allez prendre un billet de chemin de fer. TGV. Oui, TGV. Mais où? Je ne sais pas. Quand vous dites ça, vous oubliez la finalité. Hein? Et vous regardez, vous croyez que l'efficience se tient toute seule. Bon, l'efficience, à cause d'être efficiente, permet l'union effective. L'autre, l'union affective. Quand on aime profondément, l'union affective est première, on le sait bien, c'est ça qui commande tout. L'union affective, bon, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Alors, quand on est un grand vivant, l'union affective est première. Et l'union affective est seconde. Elle est commandée par ça. C'est pour ça que vous avez la causalité finale. Et cause des causes. Mais celui qui est un peu positiviste dira, mais l'union affective, je ne peux pas la mesurer. Quel est le degré d'amour que vous avez pour quelqu'un? Dieu seul le sait. Je ne peux pas lancer une sonde dans votre cœur pour voir jusqu'où ça va. S'il y a encore de l'huile. Oh, ça, dans une sonde. Non. Qu'est-ce que, alors, je peux pas la mesurer, donc ça n'existe pas, là. C'est très bien, l'union affective. Du reste, certains passages de l'écriture, hein, c'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui entre dans le royaume des dieux. Mais qui entre, entre. Il faut du courage, il faut courir. Si je dis Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oui, je sépare les deux, je distingue, il ne faut pas les séparer. Il ne faut jamais séparer les deux. L'union affective demande, pour garder son réalisme, d'assumer l'union affective. Et l'union affective, coupée de l'union affective, plus rien. Je suis là. Et pourquoi? Ah, je ne sais pas. Je suis pas, je suis là. Celui qui prend le Bernard dit, la mesure de l'amour, c'est l'amour. Ça veut dire que l'union affective n'a pas d'autre mesure que l'amour. La mesure de l'amour, c'est l'amour. Dans l'union affective, on dira la mesure de l'amour, c'est tel résultat. Alors c'est plus l'amour. Puisque c'est un effet. L'efficience est un effet d'amour, une conséquence de l'amour. Mais ce n'est pas l'amour. Alors, quand on ramène la causalité finale à la causalité efficiente, on dira seule la causalité efficiente est importante. La causalité finale, elle est métaphorique, elle est symbolique. Vous me dites que vous m'aimez, très bien. Symbolique. Métaphorique, ça veut dire symbolique, c'est-à-dire qu'au fond, on ne juge quelqu'un qu'à partir de son effet. Et voyez, on joue tout comme ça. Quand quelqu'un est au chômage, on lui dit, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie ? Et on juge uniquement sur ce que vous avez fait. On ne vous dit pas, quelle est votre capacité d'aimer ? On juge sur les résultats. C'est terrible, tu vois. C'est pour cela que, en vie religieuse, si on passe des examens, on ne donne pas de notes. L'examen, s'il est passé amoureusement, suffit. Vous aimez la vérité, c'est ce qu'il faut. Vous ne l'avez pas encore découvert, ça importe peu. Continuez de l'aimer, vous la trouverez. Tandis que, en dehors de la vie religieuse, hein, résultat d'examen, vous n'avez pas la note qu'il faut, repassez. L'efficience, vous ne regardez jamais le point de vue de l'union affective. Est-ce que vous avez aimé la vérité ? Mais non. Vous n'allez pas mettre en haut de votre copie au bac, copie de philosophie. J'aime beaucoup la vérité. Alors excusez le peu de résultats. J'aime beaucoup la vérité. On vous prendra pour un fou. Alors qu'au fond, puisque c'est la philosophie, c'est la recherche de la vérité. Vous aimez la vérité. Donc ça va. Alors on voit très bien comment, quand on ne voit plus la primauté de la causalité finale, on regarde les résultats. Et c'est terrible, ça vient du positivisme. Parce que la personne ne se ramène pas au résultat. Demandez à quelqu'un, qu'est-ce que vous avez fait ? On a envie de dire, vous m'insultez. Vous n'avez qu'à regarder qui je suis. Si vous n'êtes pas capable de savoir qui je suis, ben vous n'êtes pas digne de votre charge. Je ne pouvais pas dire ça. Hein. En fond, c'est ça qu'on devrait dire. La personne humaine vaut plus que ses résultats. Juger quelqu'un en fonction de ses résultats, mais c'est indigne de la personne. C'est regarder uniquement les résultats. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Et les résultats ? Oui. Ça, c'est très important de comprendre ça. D'où, comme la causalité finale n'existe plus, on la remplace par les valeurs. La valeur, c'est l'ersatz de la causalité finale. Je comprends très bien. Parce que la causalité finale, plus personne ne comprend. Alors on met la valeur. La valeur, c'est pas le résultat. C'est autre chose. Ce sont les qualités de quelqu'un. Mais ces qualités sont ordonnées à la fin. Donc c'est pas encore le point de vue de la causalité finale. Donc la causalité, quand on dit que la causalité finale est métaphorique, c'est parce qu'on ne regarde plus la causalité pour elle-même, qu'on n'arrive plus à le comprendre. unique métaphore. L'exemple classique, le lac rit. Vous n'avez jamais vu un lac rire. Moi, je n'ai vu qu'un enfant rire. Vous n'avez jamais vu un singe rire. Puisque c'est ça qui les irrite le plus. Vous jamais rire devant un singe. Parce que ça l'humilie. Un singe ne rit pas. Oui, c'est extrêmement intéressant parce que c'est le côté affectif, le rire. Et on veut tout le temps la parole, mais la parole c'est un effet. Le rire est beaucoup plus significatif de l'homme que la parole. Parce qu'on dira, oh, les cris des animaux, c'est un langage. Oui, je veux bien. Un langage naturel et non conventionnel. Le conventionnel est symbolique. C'est pour ça que le langage est symbolone. Donc en réalité, quelle différence entre l'homme et l'animal, c'est le sourire. Et ça, vous n'avez jamais vu un animal sourire. Essayez pour un chien. Essayez pour un chat. Faites sourire un chat. Alors à ce moment-là, il sera bon pour le cirque. Non, le chat sourit. Et ce sera la définition du chat. Voilà. Alors maintenant, nous allons continuer des choses sérieuses. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est à partir. Bon, je suis conscient, et ça tout le monde peut être conscient, que l'acte le plus grand de mon intelligence humaine, c'est de découvrir par moi-même, par mon intelligence, non pas par ma raison, mais par mon intelligence, de découvrir l'existence d'un être premier. Si cet être premier existe, c'est ce qu'il y a de plus grand. Tant que je ne l'ai pas découvert, je suis un orphelin au point de vue de ma vie spirituelle, au point de vue de mon intelligence. Je suis un orphelin. Et si je suis un orphelin, on sait très bien, il y aura une part affective en moi qui ne se développera pas. Et par le fait même, une part intellectuelle. Donc, je comprends que c'est l'acte le plus important de ma vie. Découvrir par moi-même l'existence d'un être premier. Si j'ai la foi, je le sais dans la foi. Mais je sais aussi dans ma foi, si j'ai une foi catholique, je sais aussi dans ma foi, Concile Vatican I, que mon intelligence est capable par elle-même de découvrir l'essence de Dieu. Et si je regarde la tradition, tous les pères de l'Église, tous, sauf un, et c'est un petit père, c'est pas un père grand, tous les pères de l'Église ont affirmé que l'intelligence humaine était capable par elle-même de découvrir l'existence d'un être premier. Mais que l'intelligence humaine était incapable par elle-même de savoir ce qu'il était. Là, on fait la distinction de découvrir l'existence de l'être premier et puis savoir ce qu'il est. Et tous les théologiens, sauf Luther, ont découvert, parce que même Occam, mais il le découvre mal, mais il le fait quand même. Tous les théologiens, sauf Luther, et à partir de Luther, alors il y a tout un courant qui gagne dans l'Église catholique. Tous les théologiens, sauf au début de notre siècle. C'est aussi très impressionnant. On dit que l'intelligence humaine pouvait par elle-même découvrir l'essence de Dieu. il y a eu un petit symposium fait par les Dominicains il y a 10 ans, même plus, 15 ans, puisque j'étais encore à Fribourg, qui ont voulu discuter entre eux, pasteurs protestants, calvinistes, luthériens et catholiques, savoir si aujourd'hui on pouvait encore affirmer que l'intelligence humaine était capable de découvrir l'existence de Dieu. Et tous, il y a eu un petit livre qui est paru là-dessus, édité au CERF, et tous ont dit: le seul argument possible, c'est celui de Kant. Un argument moral. Donc il n'y a pas de vraie démonstration philosophique de l'existence de Dieu. C'est uniquement au niveau pratique. Alors on s'en ramène presque au pari de Pascal. Si Dieu existe, il vaut mieux que je reconnaisse qu'il existe. Mais il peut très bien ne pas exister. Mais comme je ne peux pas le savoir, alors, point de vue pratique, vivons comme si. Mais oui, c'est pas du tout la même chose. Point de vue de l'intelligence, vivre comme si, ça va pas du tout. Vous voyez, ça prouve combien le point de vue de Luther a gagné dans l'Église catholique. On n'ose plus, parce qu'il n'y a plus de métaphysique. Il n'y a plus de métaphysique. C'est vrai, il faut le reconnaître. Oui, même à Fribourg, où l'enseigner, c'était un des piliers de Fribourg d'enseigner la métaphysique. Aujourd'hui, non. Et le Saint-Père me disait, il y a 2-3 ans, Père Marie-Dominique, dites-moi où l'on enseigne encore la vraie métaphysique. Point d'interrogation. Il y a encore des lieux, je sais bien, il y a encore des lieux. Mais on sent très bien que l'influence luthérienne est très grande. Et elle pénètre dans le catholicisme par Hegel. Alors c'est pour ça qu'on doit être très attentif, si on est chrétien, de comprendre. Comment puis-je remonter jusqu'à Dieu? Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est l'acte le plus difficile, d'une certaine manière. Je dis d'une certaine manière, parce que d'une autre manière, l'acte le plus difficile, c'est la découverte de l'être en acte. Et une fois que j'ai découvert l'être en acte, j'allais presque dire, c'est une conséquence. C'est une conséquence. Si l'être en acte est premier, ben nécessairement, il y a un être qui n'est qu'acte. Et celui-là, c'est Dieu. C'est le raisonnement d'Aristote. C'est une simplicité. Mais c'est pour ça que la découverte de l'être en acte, par induction, est quelque chose de si important, et que c'est le sommet. Alors, si c'est si difficile, partons de l'être existant. Je ne peux pas prouver l'existence de Dieu par les réalités possibles, donc par les mathématiques, par la logique. Je ne peux prouver l'existence de Dieu que par la réalité existante, puisque seul l'être existant a le signe du Créateur. Si le Créateur existe, ça ne peut être que ce qui existe, ce qui est. La réalité existante la plus parfaite que je connais, c'est moi. Je vais donc partir de mon je suis, en disant que tout le monde peut suivre le même chemin. Et vous savez, quand le chemin est très étroit, il faut être seul et puis les autres suivent. Et chacun fait son petit chantier. Et c'est un sentier à raidillon très, très, très magnifique. seul à pouvoir dire ça, c'est mon privilège. Et c'est là où j'ai la plus grande certitude. Je suis, j'existe. Si à côté de moi, il y a un voisin qui dit « tu n'existes pas, tu es un être fantastique, et tu es imaginatif », ça va pas du tout. Je vais te le prouver, je vais manger. C'est le raisonnement de Jésus. Donnez-moi du poisson. Et Jésus m'a mangé pour montrer qu'il existe. Père de la vérité, je suis parce que je suis capable d'aimer. Je suis aussi dans mon corps. Mon corps existe et fait partie de mon je suis. Peut-être en second lieu, mais il fait quand même partie de mon je suis. Mon corps n'est pas seulement mon avoir. C'est très différent. Mon corps est plus que mon avoir. Il est mon être. Il fait partie de ma substance. Il fait partie de ma personne. Mais il permet à ma personne de se manifester. Donc mon je suis se manifeste à travers mon corps, à travers ma figure, à travers mon regard. Mon je suis est acte et il est limite. Et ça, j'ai tout de suite le sens de cette limite quand je regarde l'autre. L'autre peut dire aussi je suis. Mon je suis est unique et n'est pas celui de l'autre. J'aurais jamais l'audace et la bêtise de dire que quand l'autre dit je suis, ton je suis est à moi. Parce que l'autre pourrait répondre ton je suis, il est à moi. Je ne dirais pas du tout. Mon je suis est unique, mais il est limité. Je ne suis pas l'être tout entier. Puisque celui qui est à côté de moi existe, indépendamment de moi. Il est. Donc je ne suis pas l'être tout entier. Je ne peux pas donc être l'être premier. Puisque l'autre aussi existe et n'est pas mon exister. Voyez comment je comprends ma limite. Parce que je ne suis pas tout l'être. Voyez, et c'est là où on découvrira le point de vue de la participation. Je participe à l'être, c'est vrai, je suis. L'autre aussi. Si donc j'existe et que je suis limité dans mon exister, je peux tout de suite dire je ne suis pas premier dans l'ordre de l'être. Il y a en moi une potentialité. Et ça, je peux le certifier, d'avoir l'évidence. Alors, le principe de finalité, tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Je suis limité et donc en puissance dans mon exister. Il y a donc en moi une limite terrible que je peux expérimenter constamment, qui fait que je ne suis pas premier et que je dépends dans mon exister d'un être premier. Tout ce qui est en puissance dépend d'un être en acte. Vous voyez comme c'est vertical. Je n'ai pas l'expérience de cet être en acte. Mais je dis, il est nécessaire qu'il existe. C'est presque une évidence, vous voyez. C'est quasi une évidence. Et c'est très beau l'expression de Heidegger. Il ne dit pas ça pour Dieu. Mais je pourrais dire, c'est un dévoilement. J'ouvre le bouton. Je dis, mais oui, il y a au plus intime viennent de moi, une source de mon exister. Et cette source de mon exister ne peut être que l'être en acte, que les traditions religieuses appellent Dieu. Je n'ai pas l'expérience de Dieu, mais je dis, il est nécessaire qu'il existe. Vous voyez, là, il y a quelque chose de très fort, qui est impressionnant si on veut le penser. Si on veut penser que tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte, et que je découvre ma potentialité par ma limite, je peux dire tout de suite que je dépends radicalement de mon être, de mon exister actuel, d'un être premier. Le second moment, ce sera de découvrir comment je suis en relation avec cet être premier. Ça, c'est le second moment. Et je découvre à ce moment-là que je suis nécessairement totalement dépendant de l'être premier par une causalité unique, la création. Et dès que je découvre, troisième moment, dès que je découvre que cet être premier est le créateur, pose la question, comment le rejoindre? Si je sais que la source de mon être, la source de mon intelligence, de ma capacité d'aimer, c'est Dieu, créateur, j'ai le désir de le rejoindre. Nouvelle question pratique, comment le rejoindre? Tout de suite. Et ce sera l'acte d'adoration. Reconnaître la totale dépendance à l'égard de l'être premier qui m'a créé par amour dans la lumière de sa sagesse et qui m'a créé gratuitement. Qui va tout donner gratuitement. Et je l'adore. Adorer, c'est me mettre dans un état de vérité à l'égard de mon être premier, de ma source. En l'adorant, je suis dans un état de vérité. Je suis vrai. Et je découvre à ce moment-là la septième dimension de ma personne humaine, qui est d'être relative à Dieu, c'est-à-dire d'être une créature. C'est curieux, hein? Avant ça, il y en a six. Un chiffre d'homme. 6, 6, 6. C'est le chiffre 7 qui permet de retrouver la source. Vous voyez, c'est très simple. C'est du reste pour ça que c'est difficile. Mais c'est bien ce que nous pouvons tous découvrir. Dans la lumière. Je suis créé. amour. Et cette présence de Dieu m'attire. Et c'est à partir de là que je chercherai non seulement de l'adorer, mais de le contempler. Mais il faut passer par l'adoration pour contempler Dieu, pour contempler cette source première, radicale. Et cette contemplation, elle est possible. Pourquoi ? Je ne vois pas Dieu. Alors, on pourrait dire, alors, je ne peux pas le contempler. Ah, je sais que lui me voit. Je sais que lui m'aime. Je sais que lui me porte dans cet acte d'adoration. Et que tout ce que je suis au plus intime de moi-même vient de lui. Mon âme est créée par lui. Si Dieu est présent, d'une présence lumineuse, d'une présence d'amour, d'une présence qui m'enveloppe totalement dans la gratuité totale, je peux faire un effort de le regarder sans le voir. C'est ça qui est extraordinaire. Et ceci est possible grâce à l'acte d'adoration. Oui, prenez un exemple, c'est un exemple. Je sais que derrière une porte, il y a quelqu'un qui m'aime et qui est tout pour moi. J'aimerais me coller auprès de la porte. Je ne peux pas donner un autre langage, je ne te vois pas, je ne te connais pas, mais je sais que tu es là, alors on toque. L'adoration, c'est de frapper à la porte. C'est dire à Dieu, je suis là, j'accepte de ne rien voir, je t'aime, parce que tu m'aimes. Et cet acte d'adoration et de contemplation, c'est ce qui donne à toute ma vie humaine sa signification. Je suis fait pour ça. Vous voyez, je prends cette première voie très simple. Je peux maintenant prendre une autre voie. Je les prends exprès toutes parce que c'est tellement raide qu'il est bon de prendre les cinq voies. Il y en a cinq. Pas parce que Thomas d'Aquin l'a dit, non. Mais Thomas d'Aquin l'a dit parce qu'il y en a cinq. Il y en a cinq, et c'est facile à comprendre. On a vu qu'il y avait cinq modalités de l'acte. Donc ces cinq modalités de l'acte sont les cinq voies où je découvre que tout ce qui est en puissance est ordonné à l'acte. Au plan métaphysique. Toutes sont au plan métaphysique. Mais il y a cinq voies. Alors, comme c'est rude, la montée, je m'entraîne, vous comprenez? Et ça, ça met de l'huile dans les rouages. Ça aide. Ça aide à saisir cette montée si forte. Je prends la seconde. J'ai soif de vérité. Mon esprit n'est parfaitement lui-même que quand il cherche la vérité. J'ai soif de vérité. Cette soif de vérité est une voie d'accès à la découverte de l'être premier qui est la vérité. Vous voyez, c'est par le point de vue de l'esprit. Mais attention, je suis cherchant la vérité. Hein? Je ne pars pas de la vérité en soi, mais je pars de moi, toujours mon je suis. Je suis cherchant la vérité, c'est une expérience. Et je vois tout de suite que la vérité, elle a deux aspects. Pourquoi cherchant la vérité? La vérité qui est la qualité, la perfection de mon intelligence qui connaît et qui est vraie en connaissant. Et mon intelligence est vraie quand elle est conforme à la réalité. Quand ce que je connais est conforme à la réalité, et la réalité est antérieure à ma connaissance. Donc dans ma recherche de la vérité, plus j'avance, plus je vois que la réalité est au-delà de ma connaissance. Et je vois que ma connaissance vraie est toujours limitée. Elle est mesurée par la réalité existante. Ça, je crois que c'est facile à comprendre. Que ma connaissance, si limpide qu'elle soit, si parfaite qu'elle soit, donc la connaissance même métaphysique, si limpide qu'elle soit, si pure qu'elle soit, ma connaissance reste limitée. Donc je suis connaissant, et je suis connaissant, et je suis relatif. Je ne suis pas donc premier. Il y a une limite dans ma connaissance. S'il y a une limite dans ma connaissance, je peux dire que tout ce qui est limité est ordonné à quelque chose. Premier à un acte. Or, la réalité que je vois, que j'expérimente, c'est très vrai qu'elle est antérieure à ma connaissance, mais elle n'est pas esprit. Et mon intelligence a quelque chose de supérieur à toutes les réalités que je vois. Mon intelligence est supérieure à mon corps. Et toutes les autres réalités que je vois, où elles sont corporelles, où elles sont spirituelles, mais si elles sont esprits, elles sont comme moi. Donc la recherche de la vérité me conduit nécessairement à dire que puisque ma connaissance vraie, supérieure au monde physique, est cependant limitée, elle est nécessairement dépendante d'un esprit premier qui est vérité. Vous voyez, c'est ce principe de finalité qu'il faut essayer de saisir dans toute sa force métaphysique. Parce que si je prenais le vrai, je resterais dans le domaine intentionnel. Mais je prends ma connaissance qui est vraie.